tal, amigo?
1, 2, 3, dale.
Todo es la música.
Bienvenue sur la Comme en Live, l'émission qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui font l'actualité communautaire du consistoire israélien du Bas-Rhin. Bonjour à tous, Monsieur Laurent Rabin, à Monsieur Laurent Rabin Rubibo, Gilles et à tous nos amis. Bienvenue pour cette première émission qui va, c'est un peu notre pilote, notre première. Harold, qu'est-ce que
t'as? Écoute Olivier, je suis ravi de partager cette première émission avec toi, avec nos premiers invités. Et je trouve ça très audacieux de la part de Radio Judaïka de nous avoir enfermés tous les deux dans un même studio. Je suis sûr que cette émission va détonner.
Attention, donc vous venez de comprendre que Harold est le co-animateur de l'émission avec moi. Et nous sommes très heureux de vous présenter cette émission. C'est une émission qui va tourner effectivement autour de la rencontre. Rencontre des gens qui font la vie communautaire, les professionnels, les bénévoles, l'équipe rabbinique et toutes les associations qui sont autour de ce monde-là pour qu'on ait au quotidien une très belle vie juive à Strasbourg. Alors on accueille avec nous le rabbin Rubibo et bien sûr Gilles. Gilles est notre nouveau permanent à la loge et il va entamer la première chronique sur le professionnel de la semaine. Le pro de la semaine.
Andale, chico, por favor. Andale, andale, andale.
Alors Gilles, raconte-nous qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais en trois mots, parce que je sais que tu veux le dire en trois heures.
Non, mais je vais être rapide. Je suis retraité, je viens de Strasbourg, je suis d'une famille strasbourgeoise, marié à une femme de Meknès, donc j'ai la chance de fréquenter l'ensemble des réseaux strasbourgeois, père de deux enfants un peu investis aussi de l'associatif à la communauté. Ok, présent aussi dans l'associatif à la communauté, ce qui permet aussi à toute la famille d'être engagée.
Et toi, alors, au quotidien, c'est quoi ton job?
Alors, mon job, il est nouveau depuis 3 mois. Je suis retraité depuis le 30 juin. J'ai pas eu le temps d'annoncer ma retraite, que le consistoire m'a demandé de venir les rejoindre. Donc, j'ai démarré le 1er juillet au sein du consistoire à la loge.
Et tu fais quoi alors? C'est l'accueil, c'est la sécurité, c'est quoi ton job?
Alors, il y a différents moments de la journée où je m'adapte au passage qui est assez étonnant dans ce bâtiment.
Parce alors, on peut préciser que c'est un bâtiment où il y a 600 000 personnes qui passent à l'année.
Oui, c'est extraordinaire. Je le savais, mais une fois que tu es dedans, tu es heureux de voir ça. Parce que moi, je prends ça comme une mission, comme quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que notre bâtiment, et l'ouverture de notre bâtiment du matin à 5h30, là, actuellement jusqu'au soir à 22h30, on ne s'imagine pas qu'il y a du monde du matin au soir. Donc ma première fonction, c'est surtout celle auquel s'attendent les parents, puisque la mission démarre surtout à l'ouverture des écoles. Les parents attendent de la sécurité. Les parents attendent quelqu'un qui connaisse les enfants, qui connaisse les parents, les enfants, qui les connaissent et qui connaissent aussi leur nounou. Enfin, c'est vraiment un travail de concentration. Ça, c'est la mission première, c'est la sécurité qu'on peut et donner confiance aux parents d'emmener les enfants au consistoire.
Super. Et l'autre mission, c'est quoi alors?
Alors l'autre mission, c'est une mission qui s'est rajoutée, qui c'est celle de l'accueil, parce que de ces plages horaires, il y a des gens qui sont complètement différents, qui viennent au consistoire. Donc c'est de l'accueil d'un public que l'on connaît et d'un public que l'on ne connaît pas. Donc
c'est le premier contact en fin de compte.
On est le premier contact. Et puis quand j'ai pris ce job, j'ai eu souvenir de tous les gens que j'ai fréquentés quand mes enfants allaient au GAN. Je me rappelle d'Eddy, je me rappelle de beaucoup de monde. Et il y avait ce bonjour Eddy tous les jours. Il y avait ce bonjour Monsieur Amar. Je me rappelle de Monsieur Amar. Il y avait tout ce. Alors là, actuellement, j'ai de la chance parce que tous les jours, on me dit bonjour Papy Gilles.
Génial. Voilà, donc c'est Harold, dis-nous, c'est qui était à ton époque?
Alors, à mon époque, oui, non, il y avait bien sûr, il y avait monsieur Amar, bien sûr, il y avait Eddy Kaplan, ouais. Zichron Alivracha, tous les deux. Monsieur Amar nous a quittés il y a quelques mois seulement. Monsieur Kaplan, lui, nous a quittés il y a quelques années, mais on se souvient bien sûr de ces deux visages. Et moi, ce qui me plaît, Gilles, dans l'approche qui est la tienne, c'est que premièrement, tu étais déjà très familier du milieu associatif, puisque très engagé déjà à Menorah, mais surtout que tu as apporté un regard nouveau. Sur la loge, sur le travail au sein de la loge, sur le travail au sein du consistoire, et ça, je pense que c'était très précieux. Et d'autant plus venant de toi, qui a toujours eu un regard bienveillant, c'est-à-dire que tu n'es jamais là pour critiquer. Et quand c'est une critique, c'est toujours une critique constructive. Et j'ai beaucoup apprécié le regard que tu as apporté. On a eu beaucoup de discussions. Et je sais que la mission que tu t'es donnée, c'est d'améliorer l'accueil, de faire en sorte que les gens se sentent encore mieux, que lorsque des personnes souhaitent visiter le bâtiment, qu'ils souhaitent se rapprocher de la communauté, qu'on puisse faire en sorte de leur donner envie de revenir et non pas de les repousser. Parce que nous jonglons, hein, c'est important de le dire, Gilles, pour que les gens comprennent la difficulté de la mission qui est la nôtre. On jongle entre nécessité d'une sécurité absolue et qui nous oblige à mettre en place certaines règles, mais en même temps aussi la volonté que nous avons de rendre ce centre accueillant, d'accompagner les gens, y compris des touristes, hein, qui...
Alors on a tous une expérience d'un filtre à la loge où, qui se passe plus ou moins bien, quoi, où tout d'un coup on passe 200 fois par jour et tout d'un coup il y a quelqu'un qui nous demande qui on est. Mais je sais, Gilles, que toi tu fais hyper attention à ça. Alors je sens Harold qui rigole. Toi, tu t'es déjà fait arrêter, Harold?
Alors ça m'est ici pas encore arrivé, mais ça m'est arrivé dans d'autres villes, effectivement.
Ouais, on a tous des anecdotes comme ça.
On a tous des anecdotes à raconter. Et bien sûr, il faut pas que les gens... On comprend parfois le malaise que les personnes peuvent ressentir lorsqu'elles viennent depuis des années et qu'un nouvel agent... voudrait tout simplement faire son travail, qui ne connaît pas encore les arêtes, ça peut être une expérience très désagréable, mais elle est toujours finalement le fruit d'une volonté absolue de ne pas transiger avec la sécurité.
Génial. Alors Gilles, tu m'as parlé aussi comme ça en aparté que tu avais aussi justement un projet autour de l'accueil, et je crois qu'on peut un peu, s'il y a des bénévoles qui sont intéressés pour accueillir des groupes, qui peuvent venir nous en parler, parce que c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler, c'est ça?
Ouais, en fait, en 2-3 mois, je suis étonné de voir le nombre de personnes qui frappent à la porte pour venir visiter le centre communautaire. Alors, il y a des juifs et des non-juifs. Et ça me dérange toujours de refuser l'entrée, enfin moi personnellement, après je ne suis pas décideur, ça me dérange de refuser l'entrée d'une synagogue ou d'un centre communautaire comme le nôtre, parce qu'on est assez atypique, à des gens qui veulent rentrer.
Et donc ça, c'est un sujet sur lequel tu aimerais améliorer les choses.
J'aimerais bien améliorer les choses, bon, en mettant effectivement ma position de sécurité avant celle de visiteur ou de qui veut la prendre d'accueillant. Mais il y a un réel travail à faire. Alors j'ai commencé un peu à en parler à des amis pour voir si on pouvait essayer de faire des choses sur des bénévoles, comme on a fait des bénévoles dans d'autres groupes sur lesquels je travaille. Et je suis... Les gens me disent, c'est une super idée.
Ben voilà. Alors,
Gilles,
Gilles, on a trouvé l'appel à faire pour finir la petite chronique du pro de la semaine. Ouais. Si vous avez envie de vous impliquer dans du bénévolat actif, utile, qui nous permet de vraiment de renforcer cette ouverture de la communauté, tant pour nos visiteurs touristes israéliens, juifs, non-juifs, ben, prenez contact à la loge avec notre ami Gilles. Et il vous accueillera avec son habituel grand sourire et cette chaleur qui est la tienne. Et on vraiment t'en remercie au quotidien. Vraiment, merci beaucoup. Il y a des très, très heureux de t'avoir parmi nous.
Je voudrais juste conclure. J'ai découvert à la loge des personnages permanents assez extraordinaires. C'est vrai que c'est difficile d'être concentré.
Il y a une équipe, c'est ça que tu veux dire.
Il y a une équipe et puis on échange beaucoup. Ça, c'est des choses qui sont nouveaux ici. On échange sur ce qui va pas.
La prochaine fois, c'est un de tes collègues qui viendra.
Je souhaite. Puis je suis bien entouré.
Génial. Et ben merci beaucoup Gilles et Baslara.
Voilà, merci.
Le bénévole de la semaine. Harold, on accueille Sandra.
Bonjour Sandra.
Bonjour.
Sandra Hirsch. Alors il y a toujours bien sûr notre ami le rabbin Ruyo qui est avec nous, Ariel. Et donc on est très très content Sandra de t'accueillir sur cette première chronique de la première émission de la Com en Live sur le bénévole de la semaine. Alors Sandra, on avait voulu t'avoir avec nous aujourd'hui car tu t'occupes d'une association qui s'appelle comment ?
Emouna.
Et elle fait quoi ?
Alors Emouna, c'est Emouna Strasbourg, une association qui a pour but de réaliser des projets sociaux pour des enfants et des familles en Israël.
Vous faites quoi concrètement ?
Il y a à peu près 160 projets en Israël qui s'occupent de familles à risque. Il y a des centres thérapeutiques, il y a des garderies, il y a des crèches, il y a des refuges pour femmes. Nous, notre but à Strasbourg, c'est de récolter des fonds. Et on soutient notamment deux projets, une crèche à Jérusalem, à Roma, et un village d'enfants, à Ruzat Sara, qui s'occupe et qui accueille des enfants qui ont subi notamment un syndrome de stress post-traumatique. Donc on essaie de les accueillir là-bas au mieux.
Toi, tu es allée sur place déjà ?
Malheureusement, pendant le Covid, on a souhaité organiser un voyage pour partir et visiter au moins les deux projets qu'on sponsorise ici à Strasbourg, mais ça n'a pas pu se faire et on espère en 2023 pouvoir faire ce projet au moins pour le comité de Strasbourg. Et qui sait, élargir à ceux qui le souhaitent, venir voir au moins les projets sur place.
Génial, génial. Alors, Ariel, peut-être que tu as une question pour Sandra. Non, Ariel, il n'a pas trop parlé. Alors, non, Sandra, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à cette association ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, Emouna Strasbourg existe depuis longtemps ici. Et le comité a voulu...
Rajeunir,
exactement. Et donc, ils se sont approchés de nous.
99 ans. 19 ans.
Je vais avoir 35 ans.
120 ans. 35 ans. Et t'as combien d'enfants ? 4, 5, 7.
J'ai 3 enfants.
3 enfants.
3 filles, grâce à Dieu.
3 filles. Alors, tu fais un concours avec le grand rabbin, toi, c'est les filles, et le grand rabbin, c'est les garçons.
Les garçons, ça.
C'est bien connu ici. Et donc, en fait, cette famille, c'est ma mère, ma grand-mère qui se sont toujours impliquées dans les projets sociaux, que ce soit au niveau local ou au profit d'Israël. Donc, pour moi, c'était tout naturel que je rejoigne aussi une association ici.
Pour la petite anecdote, d'ailleurs, ouais. On doit préciser que voilà, je connaissais la maman de Sandra avant Sandra, puisque lorsque j'étais rabbin à Anvers, je donnais des cours.
Tout à fait. Alors, tu viens exactement. De dévoiler le secret de cette. On devait un peu découvrir le secret de Sandra aujourd'hui. D'où vient Sandra ?
Voilà, donc je suis belge.
Ah bon ?
Ça s'entend presque pas.
Sauf quand il parle en néerlandais. Tu peux nous faire une petite démonstration en néerlandais ?
On ne sait pas savoir.
Et elle parle yiddish. Et elle parle hybride. Alors, on peut parler en toutes les langues avec toi, mais surtout, je sais que c'est aussi la langue du cœur, celle de l'implication, et c'est quelque chose qui te porte beaucoup familialement, je sais. Quelles sont les valeurs que tu as voulu, voulu porter dans ces projets ?
Avec mon engagement, je souhaite justement essayer de porter cette voix, puisque c'est en Israël, cette voix ici au niveau local, de ce qui est important pour moi, les enfants, les femmes, les familles, ceux qui sont en détresse, donc tout ce qui touche au social de près ou de loin. Donc pour moi, ça me touche particulièrement.
Alors, dernière question, et c'est en fin de compte une des raisons pour laquelle on t'a fait venir. Vous avez un projet actuellement qui est un des projets phares de l'année dans l'activité de votre association. Qu'est-ce que vous faites ?
Actuellement, on s'occupe de paniers pour Shoshana.
Ouais.
Donc la vente se déroulera la semaine prochaine, le 21 septembre.
Alors dis-nous, qu'est-ce qu'il y a dans le panier ?
Donc c'est un panier garni avec du vin Gewürztraminer, du foie gras, du miel, des chocolats Livia, une pomme évidemment. Donc tout ça, n'hésitez pas, on a encore quelques paniers de disponibles. Donc,
c'est des paniers un peu très bien emballés.
Ouais, ils ont été joliment, très customisés, ouais. Faut dire vraiment...
Raconte-nous, tu as l'air de bien connaître.
Comme dirait notre ami Salomon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et les paniers ont vraiment été customisés. Ils ont été arrangés de manière extrêmement sympathique. Ça donne vraiment envie d'acheter. Et voilà, on sent vraiment la touche jeunesse.
Merci beaucoup.
Qui a été apportée ces dernières années autour de l'association. Et on a une belle équipe. Il y a l'air d'avoir une belle cohésion.
Alors, l'équipe, c'est ce que tu disais, c'est que je crois en plus que ces paniers, c'est vous qui les assemblez, c'est ça ?
Tout à fait. On fait tout de A à Z.
Et ça, je crois que c'est un point encore plus important. Mmh. C'est pas juste des paniers que vous achetez à droite et que vous rendez à gauche. Mais
surtout, on essaye de prendre un maximum de produits au niveau local en Alsace, de promouvoir justement.
Il y avait une fois où il y avait du schnapps aussi, je crois, non ? Des petites bouteilles de schnapps.
Pas avec nous.
Et bien, la prochaine fois, il faut lui mettre une petite bouteille de schnapps. Hein. On est en Alsace, quoi. Alors, franchement, Sandra, alors, je crois qu'on a la première question du rabbin Rebivo.
S'agissant d'une association de bienfaisance, pourquoi ce nom ? Pourquoi Emouna ?
Emouna, c'est la foi.
Ouais. Ah bon ?
Donc, ouais.
C'est génial.
C'est la foi. C'est vrai qu'en Israël, c'est assez orienté vers des familles qui viennent plutôt des familles religieuses. Donc voilà, à la fois.
Très bien.
C'est aussi la confiance souvent, et je crois que c'est la confiance en vous-même, une super équipe, et nous on a confiance en vous pour que ce projet se développe bien. Harold, le mot de la fin ?
Non,
de la chronique.
C'est sympathique que Sandra intervienne après Gilles, même si peut-être que Gilles passera.
Non, ça sera dans cet ordre.
Avant, sera dans cet ordre-là, magnifique. Et
pourquoi ?
Non, parce que je sais que Gilles est aussi très impliqué, parce qu'il a ses deux filles, Aïmouna.
Ses deux filles font partie, tout à fait. Ariel, notamment, qui est présidente de.
Ah, ben voilà.
Et Gilles, pour lui, c'est tout naturel, mais moi, l'image d'Aïmouna, c'est aussi l'image de Gilles en train de se démener dans tous les sens pour décharger les voitures, pour livrer. Et...
C'est tout à fait ça.
Alors, c'est vraiment le hasard, ce que j'avais pas fait attention. Mais c'est cette filiation de génération en génération, elle porte aussi toute la puissance de votre mission. Et on compte sur vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Shana Tova.
Shana Tova.
La chronique culturelle. Alors cette semaine, la chronique culturelle sera autour du patrimoine juif alsacien. Et vous allez retrouver une voix que vous connaissez sûrement, celle de Yoav. Yoav, raconte-nous un peu l'actualité de la semaine culturelle, patrimoine alsacien, c'est quoi ?
Alors, ça fait depuis le mois de mai qu'on travaille jusqu'au maintenant, jusqu'au septembre, pour la préparation des Slichot, les fêtes des souvenirs. Et en fait, c'est une grande mission. On a 45 cimetières qu'on est en train de préparer pour le moment, les 18 septembre.
Ok. Et ça se passe comment, là, cette préparation ?
Très bien.
Génial. Et ça consiste donc le jour J dimanche, ça se passe comment ? C'est-à-dire, en fin de compte, ce que tu veux dire, c'est que pour que le jour J, il y ait 45 cimetières qui soient ouverts, que les gens soient accueillis, donc ça fait plusieurs centaines, presque des milliers de personnes qui vont passer dans les différents cimetières. Toi derrière, ça nécessite, c'est toi qui coordonne et qui t'occupe que tout soit aux petits oignons.
Voilà, que tout soit propre, et nickel, en sécurité. Et...
Alors quelle est la grosse actualité de ces derniers ? Je sais qu'il y a eu 2-3 cimetières où il y a eu des grosses rénovations.
Alors, il y a plusieurs cimetières, c'est vrai. Il y a les Nuvillers-les-Savernes, qu'on a fait de grands travaux là-bas. On a restauré le mur enceinte.
Ok.
On a enlevé deux parties de mur qui font 30 mètres linéaires. On va installer des grillages là-bas. On a nettoyé. Et en fait, tous les cimetières, ils sont totalement différents. On a des grands, des petits, dans la montagne, dans la forêt, etc.
Et donc, toi, ta mission, c'est quoi ? C'est de consister à ce que tous les corps de métier, qu'il faut quand les murs sont cassés, quand passer tondre le gazon, nettoyer le cimetière, c'est ça ?
Voilà, préparer d'abord l'accueil du public. Ça, c'est la première chose, que la porte sera ouverte en grand public et en sécurité, encore une fois. Les choses qui sont très importantes. Et voilà.
Alors, Yoav, c'est un mot important, accueil, parce qu'effectivement, je crois que c'est une des missions de notre approche dans le consistoire, de toute l'équipe, cette capacité d'accueillir, d'être disponible pour les gens. Et c'est un moment particulier, les Slichot. On a l'impression que tout est naturel et que c'est logique, que tout soit ouvert, que tout fonctionne. Mais c'était pour moi hyper important qu'on puisse montrer que derrière, il y a des équipes qui se sont mobilisées pendant des semaines pour arriver à ce résultat.
Absolument. On a une équipe qui est réunie, on peut dire, chaque année. Et pour préparer les cimetières.
Tu as des bénévoles, des professionnels, comment ça se passe ?
Alors, bénévoles, on n'a pas énormément de bénévoles, et ça c'est vraiment dommage. Et par contre, cette année, on a eu quelques jeunes qui sont réunis, particulièrement au cimetière de Kronenbourg, pour enlever des mauvaises herbes, et ça c'était super.
Génial.
Et ça c'est vraiment... Je fais un appel dans le même temps, parce que déjà travailler avec des jeunes, et qu'ils voient le patrimoine, qu'ils voient, c'est l'air, en fait c'est l'avenir pour nous et pour eux. Et après, par rapport à l'équipe, on a une équipe qui réunit entre des entreprises, entre les salariés chez nous, mais dans le même temps, il faut mentionner qu'il y a énormément de communes qui prennent en charge des entretiens des cimetières.
Voilà, ça c'est un truc très particulier à l'Alsace, dans le cadre de concordataires, et même... dans les bonnes relations interprofessionnelles, de ce soutien et le fait d'avoir des gens qui sont enterrés dans leur village. Et les villages sont très attentifs à ce qu'il y ait quelque chose qui se soit bien entretenu et que tout se passe bien.
C'est ça. En fait, chaque année, j'ai plus en plus de maires qui prennent en charge, on prépare des contrats.
Alors, je crois que tu voyages pas mal dans l'année en Alsace avec mon collègue et ami Laurent, qui l'en soit salué.
Ouais.
Et je crois que vous passez beaucoup de temps à faire ce travail de relationnel.
Absolument.
Et que je voudrais remercier. Alors, raconte-nous, tu as un petit accent. Les gens ne savent peut-être pas, mais tu viens d'où, en fait, compte ?
Alors, il y a 6 ans, comme j'ai commencé à voir les maires, m'a demandé votre accent. C'était au début. Alors, j'ai expliqué que c'est le village à côté.
Voilà. Alors, je sais que tu
étais
un peu dans les pays de l'Est, un peu en Israël. Raconte-nous un peu.
Bah, en fait, chaque langue que je parle, j'ai un autre accent. Alors,
voilà. Tu parles combien de langues ? Beaucoup, non, il me semble.
5, 6.
Et tu es arrivé en Alsace il y a combien de temps ?
Il y a longtemps, il y a 23 ans.
Et alors maintenant, c'est quoi ton souvenir, ton premier souvenir de rencontre avec l'Alsace, l'Alsacien et tout ce qui va avec?
Ben en fait, c'est varié tout le temps. Chaque jour, ça me ramène encore de choses extrêmement positives. Voilà. Connaître l'Alsace aujourd'hui, c'est génial.
Alors, on est entouré avec deux rabbins, on est sur une période des Slirot. Ouais. Est-ce que peut-être... quel est le sens même des Slirot? On en parle toujours comme un moment de souvenir, un moment de visite des cimetières. C'est quoi le sens général, Harold ou Ariel?
Alors, la journée dont on a parlé, cette journée du 18 septembre, donc qui est dans la tradition ashkénaze, la journée durant laquelle nous démarrons les Slirot, est associée aujourd'hui à cette journée du souvenir, tout simplement parce qu'il a été décidé après la guerre par le grand rabbin Kaplan, Zichrono Livracha, de fixer une journée qui soit la journée de commémoration et de souvenir pour les déportés, pour les personnes qui n'avaient pas eu la chance d'avoir de sépulture, qui n'avaient pas de journée particulière durant laquelle on pouvait réciter le Kaddish. Et c'est ce jour-là qui est un jour finalement très symbolique et je pense à plusieurs égards. Le premier, c'est que c'est une journée où il y a un élan particulier. C'est une journée de prise de conscience et c'est une journée aussi où certaines personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de venir durant toute l'année à la synagogue font l'effort de venir ce jour-là parce qu'on démarre quelque chose, on sent déjà la fête de Rosh Hashanah qui arrive. Donc je pense qu'il y a vraiment un élan particulier. Et puis c'est également dans notre tradition ce moment-là où nous nous rendons dans les cimetières de manière générale, même indépendamment de cette dimension donc terrible des déportés de la Shoah, tout simplement pour pèleriner les personnes disparues, les parents, les proches. Et donc cette journée finalement était une journée pleine de sens et qui était tout à fait de circonstances, en tout cas pour qu'on puisse y placer ces différentes cérémonies. Aujourd'hui, en Alsace, c'est devenu vraiment un incontournable, même si, malheureusement, on doit le constater, notamment dans certains cimetières ruraux, nous n'avons plus beaucoup de personnes. On tient vraiment
un effort à garder.
Alors on tient à maintenir ces cérémonies parce que c'est important et ça permet de faire vivre aussi l'histoire de notre communauté et de ces communautés rurales. Voilà, force est de constater que malgré tout, on a de moins en moins de personnes qui s'y rendent. Mais il y a deux aspects, et je pense que Yoav l'a dit de manière indirecte, c'est que nous avons l'aspect vraiment de la cérémonie et de ces différentes cérémonies officielles. Mais il ne faut pas oublier que dans ces différents cimetières, les gens ont la possibilité de venir indépendamment de ces cérémonies. Pèleriner leurs proches tout au long de la journée. C'est la raison pour laquelle il est important, et c'est tout le travail qui est réalisé par Yoav et ses équipes, il est important que les cimetières soient entretenus, que cet accueil soit réalisé pour permettre à qui le souhaite de venir pèleriner ses proches dans de bonnes conditions.
Alors, merci beaucoup. Alors justement, Ariel, quel est un peu le sens même, au sens spirituel, de cette journée de Slirot, de cette période de Slirot?
À l'approche de Rosh Hashanah, on va réfléchir un petit peu sur l'année qui est passée et les engagements qu'on va prendre pour l'année future. Il faut un moment de grande prise de conscience, et c'est-à-dire de se rendre compte un petit peu des choses qui ont vraiment de la valeur. Alors on a tous l'habitude de le dire, lorsqu'on vit une crise, quelque chose, de dire on se rend compte finalement on s'est attaché à des choses sans importance. Et bien le fait de passer par un cimetière et de se rappeler de ce qu'est la vie humaine, de se dire ce qu'ont vécu d'autres, et parfois des exemples qu'ils nous ont montrés, et de se dire le temps va passer, on sera bientôt plus là. Et autant donner de la valeur à chaque moment qui passe. Et donc le Rosh Hashanah qui vienne, qu'on prenne les bonnes décisions. Je crois que le fait de passer par un cimetière, c'est extrêmement important.
Alors le terme français, on parle de cimetière. Je crois que le terme juif est rend encore plus que tu c'est dis ça. Puissant. Ouais. Parce qu'on comment on appelle le cimetière dans la tradition juive?
Bet HaChaim souvent.
Qui se traduit comment?
La maison des vivants.
Ouais, voilà, et donc en fin de compte, je pense qu'il y a vraiment un passage dans ce lieu entre guillemets de la maison des vivants. C'est ça que tu es en train
tout
de
à
dire.
Fait. Mais je rajoute un petit point. Ce que je viens de dire, c'est valable pour tous ceux qui ont cette coutume. Mais le fait d'aller dans des cimetières ruraux auxquels peut-être on n'est pas personnellement attaché, on n'a pas nécessairement de la famille, ça permet de redonner à notre communauté, la communauté strasbourgeoise, la communauté alsacienne, la communauté du Bas-Rhin, une richesse encore plus grande. De vraiment, je ressens ça à chaque fois que j'y vais, on retrouve ses racines. Et c'est très important de se dire, le judaïsme qu'on a aujourd'hui vient de là. Ça donne plus de valeur peut-être à nos prières. Encore une fois, cette
prise de conscience. C'est vrai que les lieux souvent des cimetières en Alsace, en campagne, et Harold les connaît aussi, on les connaît tous, c'est des lieux souvent qui sont entre guillemets merveilleux. Des fois, on arrive dans un endroit, tout d'un coup, on route un peu, on arrive au bout d'une rue, d'un village, en haut d'un village, et on a vraiment l'impression d'être dans un endroit qui est merveilleux au sens.
Si on peut lancer un appel pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, d'essayer au moins une fois, je vous assure que ça transforme. Et on a envie de revenir après parce que c'est une fois dans l'année, c'est pas beaucoup, se donner un un dimanche pour faire ce lien avec la tradition, faire ce lien avec l'histoire, c'est quelque chose de merveilleux.
Alors Yoav, un grand merci. Si on doit rappeler à nos auditeurs trois choses. Un, il y a dans le Shabbat Shalom la liste de toutes les cérémonies qui peuvent aussi l'avoir par newsletter. S'ils ne sont pas inscrits à la newsletter, qui s'inscrivent à la newsletter, il n'y a aucun problème. Ils passent juste au secrétariat ou sur l'email cibr@cibr.fr. Et le deux points importants en termes de cérémonie. Une, le samedi soir, 21h15 pour le bus, 21h30 au cimetière pour la cérémonie des la cérémonie traditionnelle en fin de compte là sur les déportés et à 11h le 11h30 dimanche matin au cimetière de Cronenbourg pour l'autre cérémonie
qui va être assez particulière cette année.
Pourquoi?
Parce qu'on a ajouté une plaque aussi à la mémoire de 86 juifs qui étaient
assassinés au Struthof.
Voilà. Les restes qui ont été...
Voilà, c'est un projet sur lequel on avait travaillé avec Yoav et avec le docteur Raphaël Toledano, vous le savez, qui était à l'origine de, non seulement de cette découverte, mais aussi de cette initiative extraordinaire et très émouvante du rapatriement de ces restes au cimetière de Cronenbourg pour qu'ils puissent être inhumés dignement, mais il n'y avait pas encore de plaque à proprement parler, donc cette plaque-là sera inaugurée, elle a enfin pu être faite, on a pu graver le monument, et ce sera l'occasion, donc ce dimanche, d'inaugurer aussi cette plaque à la mémoire de ces 86 personnes, ces 86 juifs, ramenés, rappelons-le, spécialement d'Auschwitz, dans un grand cynisme, à au Struthof pour qu'ils soient gazés et que leur corps puisse après être autopsié, analysé dans les conditions absolument atroces qu'on connaît.
Alors merci Yoav, un grand merci pour ta présence. Tu viendras régulièrement avec nous, je pense tous les 3-4 semaines pour une petite chronique sur le patrimoine juif alsacien. Et merci pour ton implication et un grand Shana Tova.
Shana Tova.
Alors on passe à la chronique suivante. Stéphane, qu'est-ce que Alors Stéphane, qu'est-ce On a besoin de savoir l'actualité de la semaine. Tu seras notre chroniqueur toutes les semaines sur la chronique de l'actualité du consistoire. C'est quoi la grosse actualité, je crois même de l'année, du siècle, du mois qui arrive, Stéphane?
La grosse activité, c'est le concert de Moti Steinmetz qui aura lieu ce dimanche 18 septembre à 20h au consistoire israélite du Bas-Rhin dans la Grande Choule.
Alors venez nombreux, mais surtout raconte-nous, c'est qui, c'est quoi Moti Steinmetz?
Moti Steinmetz, c'est un chanteur chassidique israélien qui est une star mondiale, qui s'est pour l'instant pas très exporté, qui va se produire pour la première fois en France, en tout cas dans le cadre d'un concert, et donc il nous fait l'honneur d'être à Strasbourg avec nous ce dimanche. Et pour avoir vu déjà un petit peu les inscriptions, je peux vous dire que les participants sont très 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 variés dans leurs convictions religieuses et dans leur milieu et dans leur lieu de culte.
Alors Stéphane, ça c'est la première grosse actualité. Je crois qu'il y en a une deuxième qui est un peu, et même une troisième, une quatrième, une cinquième avec toi, mais on va parler d'un deuxième sujet, c'est Limoud and Food. C'est quoi, c'est quoi Limoud and Food? On mange et on boit, c'est quoi?
Alors, Limoud and Food, c'est un moment sympa pour les 18-30 où on avait réfléchi avec le rabbin Sebag à se dire, tiens, il nous faut quelque chose pour la jeunesse, pour cette tranche d'âge-là, pardon, un truc qui soit sympa, un peu déconnecté, pas très officiel. Et donc, en fait, on fait intervenir chaque semaine une personne qui nous fait du Limoud. Alors, on dit du Limoud, mais ça peut être du religieux comme du non-religieux, puisque on a commencé avec le grand rabbin à Rolzweil la semaine dernière, et donc effectivement là c'était un sujet de Torah, et cette semaine on avait continué avec Céline Geisman, donc ancienne agent au maire, donc c'était plus sur l'Europe, et donc un limoud, on va dire très société et très
sociétal,
sociétal et pas du tout en rapport avec la religion.
Ce que
et
tu veux dire en fait, c'est un temps de réflexion, c'est ça?
C'est ça, c'est un temps d'étude, c'est un temps de réflexion, c'est un temps d'échange, et avec différents intervenants du public, que ce soit religieux ou pas du tout religieux. Et la semaine prochaine, on accueillera également Leiby Frankel, qui nous parlera certainement des deux points de vue et de la philosophie, donc qui est un peu plus païenne, et certainement également de Torah et son rapport à la Torah par rapport à la philosophie.
Laura Marivaux a failli en manger son micro.
Qu'est-ce que tu entendais par païenne? Alors explique-nous, parce que là, Ariel, je crois qu'il était interpellé là.
païenne, ça veut dire plus dans la culture non
grecque et romaine, tu veux dire, c'est ça?
Grecque et romaine, effectivement, comme l'est la philosophie, donc tout simplement. Et après, alors la semaine dernière, on a fait sushi, cette semaine, on a fait pizza, la semaine prochaine, on fera barbecue. Donc
c'est un moment, il y a toujours à manger.
Un moment convivial.
Ouais, voilà. Convivialité autour d'un repas, d'un moment de réflexion. Harold, tu aurais pu l'interviewer presque sur la menorah aussi, alors je crois, ou avoir un échange sur le foot.
Oui, non, on peut, Harold y reviendra et on l'interviewera sur le sujet de son choix. En tout cas, c'est vrai que c'était sympa la semaine dernière, parce que, en tout cas, Harold peut nous le dire, c'était, je crois que, au dire des étudiants qui étaient là, c'était un cours qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Le format n'était pas l'habitude qu'ils avaient d'habitude. Voilà.
On a voulu ça beaucoup plus interactif que magistral. Je pense que c'est important. On était assis autour d'une table, donc même la disposition était sympathique. Et vraiment, l'idée, c'est d'échanger, de discuter avec les jeunes, d'entendre aussi leur point de vue, de leur permettre de réagir, de susciter leur propre réflexion, tout en créant ce côté convivial et en ciblant vraiment un public extrêmement large et varié. Et la première a été, je pense, vraiment une belle réussite. Génial. Et on souhaite vraiment un beau succès à cette nouvelle initiative. On le sait, hein, Stéphane a des idées à foison. Et ce qui est extraordinaire avec Stéphane, c'est qu'il est Baruch Omer VOC. C'est que lorsqu'il dit quelque chose, c'est on clair. Peut être certain que dans l'heure ou dans les deux heures, c'est mis en application et il va se donner les moyens, en tout cas, de réaliser ses idées. Et je crois que c'est comme ça qu'on avance. Parfois, certains projets peuvent. J'ai pas le souvenir qu'un des projets lancés par Stéphane n'ait pas fonctionné. Mais même si ça devait un jour arriver, c'est pas grave. On continue et puis on avance avec un nouveau projet. Et je crois que c'est comme ça. C'est en faisant aussi des expériences qu'on progresse, sachant que il faut le savoir, les projets sont malgré tout toujours réfléchis en amont. Hein. On n'est pas non plus. Voilà, la spontanéité est importante, mais c'est aussi, je crois. Important de pouvoir réfléchir un minimum à la pertinence de ces projets. Voilà, le but vraiment étant de rendre un maximum de services et de s'adresser à un public le plus large possible.
De brasser, de rencontrer. Alors Stéphane, justement, dans cette démarche-là, je crois que samedi soir, tu t'es aussi un peu occupé de la coordination et l'organisation de la cérémonie du souvenir, c'est ça ? On en a parlé un peu il y a 5 minutes avec Yoav, mais dis-nous juste comment ça va s'organiser, quelle est la spécificité cette année ?
Alors cette année, j'ai convié l'ensemble des responsables des associations de jeunes. Donc il y aura le Bnei Akiva, on a la joie d'accueillir deux nouvelles filles qui vont s'occuper du Bnei Akiva Strasbourg. Et donc elles vont être présentes samedi soir. Il y aura les nouveaux responsables également des EI. Il y aura également l'UEJF avec sa nouvelle présidente, la Team Project, qui seront également là. Donc on a essayé de rassembler vraiment la jeunesse strasbourgeoise lors de cette cérémonie de souvenir, et surtout on va travailler pour l'année prochaine à changer un petit peu le format, c'est-à-dire qu'on va aujourd'hui travailler à transmettre, puisqu'aujourd'hui malheureusement il n'y a plus de témoins ou très rarement, et on peut pas les faire déplacer le soir comme ça au cimetière de cette catastrophe, et on va
c'est une année de transition, alors
voilà, et on va former surtout la jeunesse à prendre le leader sur ce sujet-là. On a entre autres un projet de les emmener très rapidement au Struthof pour commencer à travailler sur cette thématique.
Génial. Alors on a parlé de trois projets, il y en a un quatrième. Top projet, c'est vraiment des activités. Il y en a un quatrième qui est quelque part un de tes premiers projets quand tu es arrivé au consistoire, c'est raconte les kidouches de Shabbat avec les ados. Comment ça se passe? Tu as repris cette année?
Alors ça se passe bien, on a repris effectivement cette année, on a repris avec les garçons il y a 2 semaines avec une quarantaine de garçons, avec la présence du grand rabbin pour le premier cours.
Là aussi c'est un format assez...
C'est un format très sympathique. Ce qui est très marrant dans Tribus des Ados, c'est que c'est vraiment devenu, moi j'appelle ça comme ça, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça ou pas, mais une institution à Strasbourg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un melting pot de jeunes qui viennent de différents endroits, de toutes les synagogues, et que chaque année ils se renouvellent en fonction de leur âge, et le bouche à oreille fait bien sa place, et évidemment le même projet pour les filles qui a aussi repris, ça fait déjà 2 semaines, et eux ils ont déjà eu 2 semaines de suite, et voilà.
Je crois que les jeunes sont contents aussi d'être entre garçons, entre filles, après ils ont l'occasion de se voir tout le temps tous ensemble, mais je crois que le fait qu'ils aient chacun aussi leur propre dynamique, ça crée aussi une intimité dans le groupe, j'ai l'impression.
Oui, et puis comme dit, moi, nous on essaye de faire des projets aussi bien mixtes que non mixtes. Il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les publics. Et comme dit, par exemple, le Limoudon Food, c'est mixte et ça marche bien. Les Kidouj des Ados, c'est non mixte et ça marche bien. Et ben chaque activité a...
Et en plus, tu fais des trucs avec les ados. Je sais, des fois, vous avez fait des barbecues là, à la rentrée où c'était mixte, il me semble.
Oui, on a fait trois soirées de barbecue mixte, effectivement. Avec,
je crois que c'est Harold qui a mangé toutes les merguez, c'est ça ?
Non, mais j'ai eu l'occasion de participer à l'une de ces soirées, la deuxième, qui était vraiment une très très belle réussite. C'est, soirée de rentrée, c'est jamais évident. On vient à peine de revenir des vacances, il y a la rentrée scolaire qui se prépare et donc on n'est pas toujours motivé pour venir participer à une activité communautaire. Et je crois que ces activités ont été une grande réussite, ça a permis aux jeunes de se retrouver autour d'un bon barbecue, un caout qui mêlait, et ça c'est vraiment sympathique, c'est la manière même dont sont préparés les caouts, ça mêle culture générale, des questions bibliques, enfin il y a vraiment un mélange.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas un caout, c'est un jeu interactif avec un outil digital et avec après les gens réagissent sur leur téléphone en groupe.
Voilà, et ça crée une émulation, c'est très rigolo, génial. Parce que c'est une sorte finalement de petit concours, donc ça crée une émulation entre les jeunes. En plus, le consistoire fait bien le travail, donc pour rendre cela encore plus attractif, il y a toujours des petits lots à gagner, même pas des petits,
ça, il faut
même
parfois Shmuel, hein,
des gros lots. Et
Shmuel est un premium Gold Plus chez Amazon.
Tout à fait.
Voilà. Alors Stéphane, on va te laisser là.
Acheteur compulsif.
On te remercie. D'abord, on te remercie au nom de toute l'équipe du consistoire pour toute la dynamique et la coordination que tu apportes dans tout ce programme d'activité culturelle et surtout culturelle. Et je crois qu'on résume, le Limoudin Food, c'est mercredi 21 à 20h, c'est ça ?
20h, c'est
et
ça.
Le concert,
dimanche 18 à 20h.
Voilà, on vous attend très nombreux et on compte sur Stéphane pour nous faire comme d'habitude un super monsieur loyal.
Avec
costume, cravate et avec le chapeau. Hein. Salut Stéphane, allez, et à la semaine prochaine. Shana Tova.
Ciao.
Et la prochaine chronique, c'est l'actualité du rabbinat. Et news du rabbinat. Alors, c'est Ariel, cette semaine, Ariel, le rabbin Ariel Rebibo, qui est à mes côtés pour nous donner un peu les news du rabbinat. Je sais que tu es sur des thématiques interreligieuses. Est-ce que c'est un peu l'actualité de la semaine ? Est-ce que tu as d'autres... C'est quoi tes actualités à toi ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Qu'est-ce que tu vas faire les prochaines semaines ?
Alors, ce n'est pas l'activité de la semaine. C'est sur du long terme. C'est-à-dire qu'on travaille maintenant, par exemple, de manière plus discrète en termes d'organisation pour qu'après les fêtes, après Soukhot, eh bien, on puisse avoir des activités qui soient prêtes. Donc, en particulier, on a lancé l'année dernière le Café Shalom, qui est vraiment très ouvert, très large, hein. c'est plus que de l'interreligieux, puisque mon but, ce n'est pas que de se rencontrer des personnes de religions différentes, même des personnes qui n'ont aucune confession, hein, qui sont des artistes, des personnes athées, des scientifiques, des gens du monde intellectuel, avec le judaïsme, avec les textes surtout du judaïsme. Et donc pour pouvoir préparer cela, eh ben, ça demande en amont un gros travail, que je fais avec Caroline Lambert, avec toi-même d'ailleurs. Et donc on est aujourd'hui dans la phase préparative, donc ça demande vraiment une grosse préparation. Et c'est vrai pour d'autres choses également où voilà, donc on est.
Alors ça c'est un des premiers projets.
Très beau projet, vraiment très beau projet qui semblerait-il aurait inspiré d'autres personnes, mais
je
en tout
crois.
Cas voilà, c'est un projet.
Comme quoi les cafés sont ouverts.
Voilà, un projet de grande envergure et je pense que en tout cas il a créé une dynamique nouvelle dans la communauté.
Alors ça correspond en plus à l'esprit que l'équipe rabbinique a voulu avoir, c'est-à-dire en même temps, je crois, un accompagnement de nos co-religionnaires, mais en même temps une ouverture.
Alors, lorsque j'ai été amené à Strasbourg, enfin lorsqu'on m'a invité à venir à Strasbourg, donc le Grand Rama, ça faisait partie un petit peu de ma fiche de poste, hein, son intention c'était qu'effectivement je travaille dans ce domaine-là aussi, et donc avec grand plaisir, parce qu'effectivement c'était un sujet qui m'intéressait auparavant, donc sur son conseil, j'ai poursuivi là-dessus, et c'est un des multiples projets interreligieux, effectivement, il y a encore beaucoup d'autres choses, travaille beaucoup avec la région a son propre, c'est très particulier, il faut le savoir ici au Grand Est, hein, c'est unique en France, où la région, de manière officielle, avec des employés, à donc un groupe interreligieux qui nous oblige entre guillemets à nous rencontrer, ce qui est très bien. Ça nous apprend d'abord à nous connaître, à connaître les personnes de l'interreligieux, et ensuite à faire des projets ensemble, parmi mille autres choses, hein, qui sont très, très riches.
Un des prochains que vous êtes en train de préparer, c'est sur quel sujet? Il y en a un en particulier qui te...
Donc il va y avoir, comme chaque année, les printemps des religions, il y a toutes sortes de rencontres sur des thèmes particuliers qui sont parfois grand public, parfois plus petits, où c'est juste des petites rencontres. Il y a le calendrier des religions qui lui est fait par la ville. Donc c'est un calendrier dans lequel on a toutes les fêtes religieuses de toutes les religions, hein, mais même les plus parfois les plus surprenantes. On s'y attend pas. On a les hindouistes, les baillis, etc. Avec un petit texte qui accompagne cela. Ça fait partie, voilà, d'une sorte de tissu interreligieux qui est particulier à Strasbourg et à l'Alsace, où vraiment on se connaît bien et on peut partager, on peut discuter. Et je crois que c'est une richesse pour Strasbourg.
Donc ce que tu veux dire, c'est que ce n'est pas juste des rencontres protocolaires, mais en fin de compte, avec le temps, ben, il y a aussi des liens qui se créent entre les différents responsables.
L'aspect protocolaire est quand même très important, il faut le savoir. Hein. Mais avec le temps, plus on apprend à se connaître, plus effectivement ça dépasse l'aspect purement protocolaire, et puis parfois on peut même créer de belles amitiés. Ouais.
C'est très très beau. Alors je sais que tu as grandi en région parisienne, hein, dans un espace non concordataire, et que tu as démarré ton rabbinat assez rapidement après dans un espace concordataire à Thionville et maintenant à Strasbourg. Donc tu connais, je pense, cette ambivalence, cette différence et cette spécificité. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce qui te marque encore aujourd'hui, justement, en dehors de la règle du concordat et du fonctionnement concordataire dans le quotidien?
Ta question porte sur le concordat en particulier, ouais. Sur la manière dont fonctionne le concordat. Oui. Moi, ce qui me marque, c'est le fait d'être concordataire. C'est autre chose simplement que faire l'interreligieux, parce que tous les rabbins en France en font. C'est autre chose que d'avoir un lien avec les autorités, parce que tous les rabbins en France ont des liens avec des autorités. Je vais le dire de manière un peu simple, c'est qu'il y a une forme d'obligation, une forme de devoir, de responsabilité. Le fait d'être concordataire, c'est-à-dire on fait partie du ministère de l'Intérieur, donc on a un sentiment un petit peu de comme un fonctionnaire, avec au bon sens du terme. Hein.
Sentir obligé.
Voilà, sentir obligé, c'est-à-dire que je représente aussi l'État. Et ça peut paraître étonnant
de la part... Et se sentir obligé à quoi, alors?
Eh bien, que mon judaïsme soit aussi un judaïsme de la cité, soit un judaïsme qui s'insère de manière générale dans la société et fasse évoluer l'ensemble de la société, que j'ai ma part dans la société, en termes républicains. Je crois que c'est très important. Là encore, les rabbins hors concordat le font aussi d'une certaine façon, mais l'obligation chez nous dans le judaïsme n'est pas quelque chose dont on a honte et dont on se cache, mais au contraire, l'obligation, le devoir, le fait que j'ai pas le choix de faire la chose rend plus de valeur à la chose.
C'est un peu le sens d'une mise bas, en fait.
Exactement, c'est-à-dire c'est la raison du concordat, hein, c'est que le concordat, contrairement à la manière dont c'est présenté, c'est très mal présenté, je pense c'est volontairement biaisé. Ça n'est pas que profiter de l'État. Le concordat, c'est avoir des comptes à rendre à l'État. Et ça, c'est très important.
Et je crois que ce compte à rendre, en dehors de l'aspect légal, le mot lui-même le dit, il y a une obligation de concorde.
Exact, très bien.
C'est-à-dire le fait de poser que les gens doivent s'entendre, ça nous oblige à être à la hauteur de cette entente, c'est ça?
Ouais, à tel point que même ceux qui ne font pas partie du concordat, c'est le cas en particulier de l'islam, qui est une très importante, les liens qu'il y a avec l'islam à Strasbourg sont très différents de la manière dont ça se fait ailleurs, et on nous le dit énormément. Beaucoup, beaucoup de gens qui viennent ici à Strasbourg de différentes religions sont très impressionnés. J'ai discuté hier avec des représentants du Conseil de l'Europe. Eux m'ont dit, ce qui les a particulièrement marqués, c'est cela. C'est parce que voilà, il y a cette concorde un petit peu qu'on a réussi à faire, peut-être par obligation, et c'est tant mieux.
C'est pas mal.
Tu as réussi à parler de hauteur en parlant de concorde, je trouve ça très fort.
Okay, j'ai pas parlé de vitesse. Hein. Alors, Ariel, c'est l'actualité, c'est aussi ton actualité dans ta choule. Tu es le rabbin de la choule d'une synagogue du Merkaz.
Oui.
Comment ça se passe c'est quoi un peu les prochaines actualités? La rentrée se passe bien?
La rentrée se passe très bien. Il y a les offices, évidemment, qui fonctionnent merveilleusement. On en a eu tous plaisir à se retrouver pour ceux qui étaient partis un petit peu en vacances. Donc voilà, il y a une vraie chaleur qui revient. On se rend bien compte que maintenant...
Il dit chaleur parce qu'il n'y a plus de climatisation au Merkaz.
Non, je dis chaleur parce que vraiment, il y a une bonne humeur, il y a un plaisir à se retrouver. Je crois que le Merkaz, j'espère que ça aille ailleurs aussi le cas, hein, mais je parle de la communauté que je connais, que j'aime. les gens s'apprécient les uns les autres et sont très heureux de se retrouver pour prier, pour discuter.
Discuter, c'était pour moi parce que je prie dans cette chose. Donc vous imaginez que je parle et je prie dans ce sens-là.
Donc pour moi, c'est c'est la base. Ça, c'est vraiment le plaisir
de parler.
Premier. De aussi, non, de si possible en dehors des heures d'office. Mais voilà, de recréer une keila, de recréer une communauté où les gens ont plaisir à se retrouver. Maintenant, le Merkaz, c'est également un lieu d'études. Il y a des cours et ça fonctionne très bien.
Alors, je crois qu'il y a un cours en particulier que toi tu animes, qui est un peu un cours phare de la vie communautaire et la vie juive strasbourgeoise. Il a lieu Shabbat, c'est ça ?
Alors, il y a le cours du Shabbat qui se fait après l'office du matin.
Qui est devenu aussi, Ariel, permets-moi de le dire, une institution. On parlait d'institution tout à l'heure pour le kiddouche des ados. Alors, pour le chiour du Shabbat matin du rabbin Rebibo est également devenu une institution. Alors, je le dis parce qu'il ne se permettrait jamais de le dire et je sais qu'il en est même gêné, mais il réunit des fidèles bien au-delà du cadre des fidèles du Merkaz.
Je disais, avant, il y avait des gens qui venaient soit à la choul, soit au kiddouche. Maintenant, des gens qui viennent soit au cours et un peu au kiddouche et parfois à la choule. Donc, c'est vraiment, n'hésitez pas, c'est tous les Shabbats à 11h15.
Tous les Shabbats, il y a tous les milieux, tous les âges. La particularité, si je peux me permettre un peu de ce cours-là, c'est de se fixer un cycle d'études, c'est-à-dire que les sujets sont imposés. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que le fait d'avoir des choses imposées, parfois, c'est extrêmement riche. Je ne choisis pas le sujet a priori. Alors, c'est sûr que je vais choisir à l'intérieur d'un sujet, mais de manière volontaire, en 7 ans, on a abordé quasiment tous les sujets de la Torah. Donc, il n'y a pas d'impasse.
Alors, tu dis 7 ans parce qu'en fin de compte, tu as un truc assez étonnant, c'est que tu fais chaque année
une montée.
Une des montées. Donc, voilà. Il y a 7 montées chaque Shabbat et une des montées. Donc, sur 7 ans, on a fait le tour du...
Voilà.
Du...
Donc, ça permet aux participants de savoir à l'avance quel sera le texte. Et ça, c'est ce que j'attends beaucoup de la part de ceux qui viennent, d'avoir lu le texte et d'être venus avec leur propre lecture pour qu'on puisse en discuter.
Alors, ceux qui n'ont pas lu, il y a le texte qui est disponible.
De toute façon, évidemment. Et donc, grâce à cela, on aborde quasiment tous les sujets, même les plus étonnants, qui pourraient paraître les plus basiques, une généalogie, je ne sais pas moi, une description d'un sacrifice.
Alors, ce que tu veux dire, c'est que souvent, quand on a des cours Shabbat, c'est souvent sur le début ou c'est des trucs assez emblématiques. Et là, voilà. Quelque part, ça t'oblige à suivre une démarche qui fait que même le sujet dont on ne parle pas trop souvent dans la cinquième montée, et bien là, cette année-là, on va perdre toutes les cinquièmes montées. Alors, j'aimerais préciser, parce que je connais ce cours, c'est plus qu'un cours. Je crois que tu veux construire ce cours comme, en fin de compte, un mode un peu comme une logique un peu de pile-poule ou d'échange avec.
Alors, la deuxième particularité du cours, donc à part le fait que le sujet soit presque imposé, c'est la méthode. C'est-à-dire que j'essaye de mettre en avant une méthode particulière qui est celle du pchat, et donc j'essaye de fournir des outils en fait. Non seulement on étudie le texte, mais j'essaye de former les personnes qui participent à maîtriser ces outils pour eux-mêmes étudier ce même texte, me contredire évidemment, j'attends beaucoup cela, et ensuite étudier d'autres textes. Et donc il y a vraiment l'enseignement d'une certaine méthode qui se veut très réduite, hein, donc on met de côté énormément d'autres méthodes qui sont extrêmement intéressantes. Donc c'est celle, la méthode
elle
du
est chat. Basique mais dans le sens noble du terme.
Voilà, l'avantage c'est qu'on partage les mêmes outils, on part sur les mêmes bases, et donc on peut partager les mêmes questions, les mêmes réponses, et souvent, et c'est ce que je trouve ça toujours enrichissant, quand ce sont les participantes ou les participants qui eux me proposent de nouvelles questions ou de nouvelles réponses auxquelles j'ai pas du tout pensé.
Et alors un des intérêts aussi de cette méthode, c'est que ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude d'étudier de venir étudier avec toi, et des gens qui ont l'habitude d'étudier d'avoir le temps nécessaire à la réflexion pour aller sur d'autres sujets. Et ce qui me marque beaucoup dans ton cours, je le vois au côté chaque semaine, les gens qui viennent, c'est un public très large. Et que tu arrives, toi, dans la discussion et dans l'échange, à faire que chacun se sente concerné.
Tout à fait. Il arrivait souvent que des personnes.
Cette triple lecture est assez étonnante.
Il est très souvent arrivé que des personnes qui viennent pour la première fois, non seulement à ce cours, mais même à un cours de Torah, puissent participer dès le premier cours. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'en fait, ce qu'on attend d'eux, c'est d'avoir une lecture du texte.
Une interaction.
La plus ouverte. Et donc, à partir de là, ils se rendent compte que j'ai jamais étudié, mais pourtant, je suis capable de poser des questions et d'apporter des réponses.
Génial. Alors, Ariel, on arrive à la fin un peu de notre chronique. On espère te voir régulièrement avec nous, peut-être même chaque semaine. Et on te souhaite un Shana Tova. En régime pour l'interreligieux, le prochain Café Shalom, on vous attend. Vous aurez les premières dates, mais ça sera juste après Soukhot, c'est ça ?
Exactement, tout à fait.
Et pour
avec
le
des
cours,
personnes très intéressantes, vous verrez. On a
des super trucs qui s'acquittent.
Voilà, donc on va avoir une dame qui, au nom du bouddhisme, va parler. Une dame très intéressante qui est très impliquée dans le dialogue interreligieux, donc que beaucoup de gens connaissent déjà, qui est Sacha Marche, mais c'est son aspect un peu bouddhiste. Mais vous allez voir qu'elle a un amour de la Torah qui est exceptionnel. Et on aura un professeur de droit islamique Moussa Abou Ramadan, qui travaille à l'UNISTRA, qui, ça sera exceptionnel aussi, va nous faire une comparaison avec le Talmud. Donc, on a eu l'année dernière un musulman qui a fait une comparaison avec la prière juive. Donc, ça nous permet en plus d'ouvrir, de ne pas avoir que des textes bibliques. Donc, voilà pour quelques-uns
d'entre eux. La logique que tu as mis en place, c'est toi qui accueille l'invité. L'invité vient, choisit son texte.
Alors, l'invité est obligatoirement non-juif, ouais. C'est le principe. C'est lui qui choisit le texte. Il nous le donne à l'avance, et là aussi pour que chacun puisse avoir sa propre lecture du texte au préalable et arriver, écouter. Ensuite, moi j'ai ma propre lecture, et ensuite on passe à un débat de type café philo.
Harold, un petit mot pour la fin avec Ariel.
Bah écoute, le mot de la fin, c'est tout simplement que je suis vraiment ravi de terminer cette émission avec mon ami le Amaril Rebibo, qui est pour moi l'expression, c'est vrai qu'on aura l'occasion d'avoir beaucoup d'invités dans cette émission, hein, ça va tourner aussi bien au niveau, on l'a dit, des bénévoles, que des pros, que de l'équipe rabbinique. Ariel, c'est quelqu'un de très précieux pour moi dans l'équipe rabbinique, c'est, rappelons-le quand même, l'une des dernières recrues, même si, voilà, entre-temps, on a eu le bonheur aussi d'accueillir le rabbin Gatzobag, mais finalement, Ariel n'est pas là depuis très longtemps, et on a l'impression qu'il est là depuis des années. C'est ça ce qui est incroyable, c'est que, finalement, Ariel, ça fait quoi, 3 ans maintenant que tu as rejoint l'équipe rabbinique, et on a l'impression qu'Ariel est là depuis 10 ans, depuis 15 ans, enfin, qu'il a toujours été là, et voilà, c'est l'occasion aussi pour moi de le remercier en public pour tout ce qu'il a apporté, beaucoup de sagesse. Il faut le dire, hein, vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de pondération, c'est très très important. On l'a dit, un limoud vraiment de qualité, accessible à tous, mais je l'ai dit, sans pour autant perdre en profondeur, en qualité, c'est important, et c'est d'ailleurs toute la difficulté dans le limoud et dans la manière de transmettre et d'enseigner, c'est que lorsque parfois on veut rendre son limoud accessible à tous, eh bien on a tendance à perdre un petit peu en qualité, parce que en voulant se mettre au niveau des gens, on fait l'erreur parfois de réduire un petit peu la qualité de son enseignement. Voilà, ce n'est pas le cas. Ariel a trouvé le bon tempo, et je crois que ça a apporté vraiment une très très grande richesse à cette transmission et à cette étude au sein de ce bâtiment, et de manière bien plus large au sein de la communauté strasbourgeoise.
Ariel, Shabbat Shalom.
Merci à vous.
Shabbat Shalom à tous, et à la semaine prochaine.
Hola Omer, ¿qué tal amigo?
1, 2, 3, dale.
Todo es la música, deja la política, no importa en qué sea.